Or, peu de chercheurs s'y sont intéressés, et pourtant nous sommes tous concernés. Quand je dis tous, je fais allusion aux humains, mais aussi plus largement à tous les vertébrés. De quoi s'agit-il? Du bâillement. Alors ne souriez pas, c'est très sérieux. L'un des plus grands spécialistes du sujet français, c'est un médecin, il sera en ligne dans un instant. Il y a un geste que vous avez sûrement accompli ce matin en vous réveillant, peut-être d'ailleurs sans vous en rendre compte, vous avez bâillé. N'ayez pas honte, tout le monde bâille. Mais au fait, pourquoi bâillons-nous? Il y a un médecin français qui s'est posé la question depuis de longues années et il est en ligne avec nous. Bonjour, Olivier Waluzinski.
Bonjour.
Vous êtes médecin de campagne, vous êtes installé dans le Perche. Et pour un médecin de campagne, vous voyez du pays puisque vous parcourez la planète entière pour faire des conférences sur le bâillement. Alors nous allons essayer avec vous de percer les mystères du bâillement. Mais d'abord, qu'est-ce qui vous a pris de vous intéresser à ce sujet au point d'en devenir l'un des grands spécialistes, y compris au-delà de nos frontières?
Eh bien, d'abord une curiosité personnelle, et ensuite j'ai été confronté en 1978 à un jeune homme d'une trentaine d'années qui est venu me consulter parce qu'il bâillait tout le temps, environ 3-4 fois par minute. Et à l'époque, je ne connaissais strictement rien au sujet, et j'étais très mauvais, et je ne l'ai jamais revu. Mais ça m'a piqué au vif de ne pas être bon, de ne pas comprendre, de ne pas connaître, et je me suis mis à chercher dans les bibliothèques, et puis je n'ai jamais cessé depuis.
Et vous avez réussi à... C'est le mystère du bâillement.
Ah, pas entièrement, il y a encore beaucoup de mystères, mais déjà à comprendre certaines choses, c'est-à-dire être certain, en particulier avec des travaux d'un Américain qui s'appelle Robert Provine, qui a aussi fait des travaux sur le rire, et au niveau du bâillement, de bien préciser que ça n'a aucun effet sur l'oxygénation du cerveau, comme ça a été dit pendant des siècles. Ça n'a strictement rien à voir. D'ailleurs, les poissons bâillent, les oiseaux bâillent, tous les vertébrés en général. Le fœtus bâille très précocement des 12 à 15 semaines de grossesse. Au moment où il commence à déglutir, à avaler, eh bien, il se met à bâiller dans le ventre de sa maman et à ce moment-là, il ne respire pas. D'autre part, si vraiment s'oxygénait le cerveau, le marathonien devrait bâiller à chaque foulée. Or, c'est vraiment pas comme ça qu'il prend un maximum d'air pour courir.
Alors ça, c'est une idée reçue, mais je reviens à votre intérêt et votre recherche. Vous dites que vous avez fait une recherche auprès des grands spécialistes, que vous avez parcouru les bibliothèques. Est-ce que vous vous êtes aussi intéressé au bâillement à travers vos patients?
Oui, ça c'est dans les années 90. J'ai commencé par faire une enquête en interrogeant tous mes consultants sur le nombre de bâillements, à quel moment de la journée, enfin de multiples questions. Et mes confrères m'ont beaucoup écrit et posé de questions parce qu'ils se trouvaient confrontés à des patients qui bâillaient et qui, comme moi, ils n'avaient jamais entendu parler de ça dans les livres de médecine ni dans les cours de faculté. En fait, le bâillement, c'est un étirement musculaire, c'est le fait de s'étirer. Toutes les personnes qui nous écoutent, qui ont des chats en particulier ou des chiens, les voient faire ce mouvement avec les deux jambes en avant complètement allongées, bâiller en retournant la tête un peu en arrière et en faisant le dos arrondi en creux. Là. Ça, c'est ce qui s'appelle une pendiculation, qui est un bâillement avec une contraction des muscles de toute la colonne vertébrale et de tous les membres.
Alors, je reviens un instant sur le patient qui avait frappé à votre porte. À la fin des années 70, oui. Vous disiez que vous n'aviez pas su quoi lui répondre. Aujourd'hui, maintenant que vous avez creusé la question, est-ce que vous auriez su quoi lui répondre?
Eh bien, écoutez, ce qui est curieux dans ce comportement de bâillement, c'est qu'il peut être révélateur d'une maladie en lui-même, il peut soulager des problèmes de santé, il peut en même temps en déclencher. Pour résumer, il peut révéler des pathologies du cerveau, en particulier de la petite glande qu'on a à la base du cerveau qui s'appelle l'hypophyse. Il peut être, à notre époque, surtout secondaire à des prises de médicaments qu'on utilise pour traiter des dépressions, soigner le moral, qui donne beaucoup de bâillements. Il soulage quand, par exemple, vous descendez en avion ou que vous êtes en montagne, vous descendez un col et que vous avez les oreilles qui se bouchent, parce que lorsqu'on bâille, on ouvre la trompe d'Eustache, le petit canal qu'on a entre le nez et l'oreille, et on retrouve son audition. Et en même temps, il déclenche des maladies parce que, par exemple, c'est la cause la plus fréquente de la luxation de la mâchoire, c'est quand nous bâillons. Vous voyez, c'est assez curieux qu'en même temps il peut soulager, en même temps il peut déclencher, en même temps il peut être le révélateur de pathologie.
Alors, quand vous avez fait vos études de médecine, est-ce que vous êtes penché sur cette question du bâillement?
Pas du tout, mais j'en ai jamais entendu parler dans mes études non plus, ni dans les livres de physiologie. Et je pense qu'à l'heure qu'il est, nous n'en parlons toujours pas dans nos facultés. C'est pas fondamental, hein, faut quand même pas, faut le mettre à sa juste place. ça peut avoir un intérêt, par exemple, je pense, pour nos éditeurs, quand ils font des grands parcours en voiture, le fait d'être sur une autoroute et commencer à bâiller de façon répétitive, c'est un signe d'alerte qu'il y a un risque d'endormissement et qu'il est temps de s'arrêter pour faire une pause pour éviter de s'endormir au volant.
Le bâillement, on le voit à d'autres moments de la journée, pas uniquement, ça n'est pas lié uniquement au sommeil.
Écoutez, pour parler de l'homme, dans la répartition, il y a deux grands moments. Il y a le moment de l'éveil, où là, ça s'associe à des pendiculations, à des étirements généralisés. Et puis en fin de journée, à l'approche du sommeil, on recommence à... Mais on bâille aussi quand on a faim, quand on manque de sucre dans notre corps, et également après les repas, quand on a trop mangé, en particulier si on a bu de l'alcool. Donc là, on voit que le bâillement est associé à notre état d'éveil, de vigilance, d'une part, et à notre état de satiété. Et puis en fait, ce qui est très curieux, c'est qu'on, dans le monde animal, chez les singes qui s'appellent les macaques, il y a des bâillements qui sont associés à la sexualité également.
Ah bon ?
C'est-à-dire qu'ils sont le propre du mâle dominant qui bâille avant de s'accoupler et qui bâille après l'acte sexuel, un petit peu pour montrer au reste de la troupe qu'il est effectivement le dominant. Et si on le castre chimiquement ou chirurgicalement, il perd son statut de dominant, il perd ses bâillements et son remplaçant acquiert cette capacité.
Alors ça, on voit ça chez le singe, on le voit pas chez l'homme.
Chez l'homme, non. Enfin, il y a des médicaments pour soigner l'impuissance masculine qui donnent des bâillements aux hommes qui en prennent. Mais apparemment, c'est plutôt chez la femme. Il y a un psychologue néerlandais qui a fait sa thèse il y a 2 ans sur la face cachée du bâillement dans la sexualité féminine.
Ah bon ? Racontez-nous.
Eh bien, par exemple, souvenez-vous des gravures pour les soldats américains en Corée ou en Vietnam. On voit souvent des pin-ups qui sont dans un geste de pendiculation, les bras en l'air, montrant leur poitrine en avant dans un gros bâillement. Il y en a de multiples comme ça. Il y en avait même de dessinés sur les avions à l'époque.
Oui.
Et donc, on pense quand même que, par exemple, une jeune femme qui s'étire et qui montre sa poitrine, ça signifie un désir sexuel.
Mais c'est une posture. C'est pour le photographe.
Ah, je ne pense pas. Je pense qu'il y en a qui sont totalement involontaires. Effectivement, après, dans l'art, c'est valorisé comme ça. Mais il y en a qui sont spontanés, certainement.
Alors, on baille combien de fois par jour ?
Bien, il y a des petits dormeurs et des grands dormeurs, il y a des petits bailleurs, des grands bailleurs, mais en moyenne, c'est de 5 à 15 fois par jour de façon physiologique.
Et parfois, des patients viennent vous voir, comme si on de la fin des années 70, qui baillait beaucoup plus, lui.
Le record est une observation du célèbre neurologue de la fin du 19e siècle, qui est Jean-Martin Charcot, qui exerçait à la Salpêtrière, qui avait une patiente qui baillait 8 fois à la minute, ce qui fait 480 fois à l'heure, ce qui est quand même considérable.
Oui.
Et à l'époque, ils avaient retenu le diagnostic d'hystérie, ce qui n'est sûrement pas valable dans notre nosologie actuelle, parce qu'en fait, cette dame avait une amputation de champ visuel, avait des troubles neurologiques qui sont décrits dans l'observation, et avait très probablement une tumeur de l'hypophyse, qui à l'époque n'était pas diagnosticable, puisqu'il n'y avait pas de scanner ni d'IRM.
On en a tous fait l'expérience, le bâillement est contagieux. Quand on voit quelqu'un bâiller à côté de nous, on a envie de bâiller. Est-ce que vous pouvez l'expliquer, ça ?
Un petit peu, on commence à en comprendre un petit peu les mécanismes grâce à des découvertes faites par des neurophysiologistes italiens dans la même bonne ville de Parme qui ont découvert que nous avions le cerveau des neurones un petit peu particuliers qu'ils ont appelés des neurones miroirs qui s'activent quand on regarde quelqu'un faire quelque chose, exprimer une émotion, que ce soit faire un geste, et en fait, nous, dans notre cerveau, nous mimons cette action pour en comprendre le sens et la signification. Et donc c'est par ces voies que beaucoup de comportements, le rire, même des gestes, par exemple si vous voyez des gens autour d'une pétanque regarder les joueurs, eh bien vous verrez qu'un certain nombre de spectateurs miment involontairement les gestes de celui qui tire la boule. Donc nous avons sans arrêt, et le plus souvent, nous inhibons grâce à l'activité de nos lobes frontaux ces mouvements automatiques.
Sauf que cette inhibition ne joue pas pour le bâillement.
Exactement, sans qu'actuellement on sache exactement pourquoi. On donne une signification qu'en fait c'est une façon de comprendre et de mettre nos niveaux d'éveil en commun, sachant que cette contagion, qui n'est pas une vraie contagion, puisqu'il n'y a pas de microbe ni de virus, Charcot appelait kinésie, hein, donc un mouvement en écho, il faut être dans un état particulier. Si vous êtes concentré sur une tâche intellectuelle importante, vous serez insensible au bâillement de votre voisin. Par contre, dans un transport en commun où votre esprit n'est pas beaucoup stimulé, si votre voisin ou votre voisine bâille, puisque c'est très fréquent dans les transports en commun, là, certainement, vous vous mettrez à bâiller comme elle.
Alors, on ne peut pas décider de bâiller. Le bâillement nous vient sans qu'on en soit conscient.
Le bâillement est involontaire. On ne choisit pas de bâiller. Bon, il y a des techniques qui sont utilisées dans les salles de yoga et de relaxation où on arrive à un état mental et psychologique qui fait que les bâillements viennent facilement et procurent une sensation de bien-être qui concourt à la relaxation. Je crois que surtout, ce qu'il faut dire à nos auditeurs, c'est qu'il ne faut pas se retenir quand on a envie de bâiller, ça fait du bien, il faut y aller. Et bon, il y a des préceptes de la vie en société qui remontent peut-être à une époque où les bouches étaient en très mauvais état et sentaient très mauvais, où il fallait mettre sa main devant sa bouche, mais son voisin. On garde cette notion qu'il faut cacher sa bouche quand on baille, mais il faut bâiller quand même quand on en a envie.
Alors je vais vous faire un aveu, je vous ai écouté comme nos auditeurs avec beaucoup d'intérêt, mais je n'ai pas pu m'empêcher de bâiller en vous écoutant.
Et oui,
comment ça s'explique ?
Eh bien, je ne l'explique pas, mais c'est effectivement un comportement qui est très sensible à la suggestion. Lire des textes sur le bâillement, regarder quelqu'un bâiller, entendre quelqu'un bâiller, puisque les personnes qui sont aveugles sont aussi sensibles à la réplication du bâillement, à sa contagion, alors qu'elles ne voient pas la personne. Donc il y a d'autres mécanismes que simplement la vue qui participent à cette transmission.
Bien, merci beaucoup docteur Olivier Waluzinski. Je précise que vous avez mis en place un site internet. Vous pouvez nous donner l'intitulé de ce site sur le bâillement.
C'est www.bâillementausingulier.com. Il y a beaucoup de choses assez savantes de neurophysiologie, mais il y a aussi tout ce que nous venons de dire là de façon plus approfondie. Et puis on peut, si l'on veut, télécharger un certain nombre d'articles qui sont parus soit dans des revues grand public, soit dans des revues professionnelles, pour retrouver et lire à tête reposée, et bâiller en le lisant, bien sûr.
Et bâiller avec plaisir, puisque voilà. Vous l'avez dit, ça dégage une sensation de plaisir. Merci beaucoup, Olivier Waluzinski.
Merci à vous, au revoir.